Cette semaine aura été marquée par les appels du pape pour que l'on respecte les travailleurs. Certes, le 1er mai, fête de Saint-Joseph, y était pour quelque chose, mais aussi cette terrible tragédie au Bangladesh. Le pape François est intervenu plusieurs fois sur le drame, qui a fait des centaines de morts et de blessés dans une manufacture textile, dénonçant le travail qui rend esclave. Jérémy Caudron, politologue spécialiste du Bangladesh, au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po Paris, nous parlait de ces conditions de travail plus que précaires.
Il y a une explosion de colère dans la rue, des mouvements de masse, etc., mais qui ne s'attaque pas vraiment aux problèmes structurels. Quelques intellectuels, bien sûr, ont parlé de la situation très très fragile, très précaire de ces travailleurs, en particulier de ces travailleuses, hein, parce que c'est beaucoup de femmes, mais en général, au bout de quelques jours, la situation est oubliée, le problème est oublié, et le gouvernement ne fait rien véritablement pour mettre la pression sur les propriétaires d'usines.
En Italie, Enrico Letta, à la tête d'un nouveau gouvernement, tenait son discours de politique générale devant les députés, un discours plein de bonne volonté, de promesses et d'espoir qui s'efforce de contenter tous les partis de la coalition gouvernementale, et notamment le parti de Berlusconi et son engagement à supprimer l'IMU, une taxe foncière très mal supportée dans le pays. Cette mesure pourrait créer un manque à gagner de plusieurs milliards d'euros pour l'État italien, autant de marge de manœuvre en moins pour les politiques de relance annoncées. Giovanni Guzzetta, professeur de droit constitutionnel à l'université Tor Vergata de Rome, nous donnait son opinion.
Écoutez, il y a beaucoup de proposition de nouvelles dépenses pour pousser l'économie, mais il n'y a pas autant de décisions en sens de réduire les coûts inutiles. Il faudra voir comment le gouvernement va balancer la propension à dépenser plus sans réduire les coûts, pourvu qu'on a une dette publique qui est énorme et qu'il faut absolument réduire.
Récession plus importante que prévu et chômage toujours en hausse cette année pour la zone euro. Ce sont les nouvelles prévisions économiques de la Commission européenne publiées cette semaine. Les 17 sont en passe de connaître la pire récession de leur histoire en 2013. Des chiffres bien plus pessimistes qu'initialement prévus. Tout le monde est touché, y compris les pays du Nord, jusque-là relativement épargnés comme la France. Comment expliquer un tel panorama? L'économiste Jean-Marc Daniel nous livrait son analyse.
La première raison, c'est effectivement les politiques de rigueur. C'est-à-dire que la contraction de la demande publique ou d'une partie de la demande privée du fait des augmentations d'impôts se traduit forcément par immédiatement une baisse de l'activité économique. La deuxième raison, c'est que les entreprises ont toujours des marges qui sont des marges très faibles, et donc l'investissement privé n'a pas repris. Et c'est ça qui est le plus inquiétant, parce que c'est l'investissement privé qui est le porteur de la croissance à long terme. Et puis la troisième raison, c'est que les exportations de la zone euro sont pénalisées par le ralentissement de la croissance économique dans le monde entier. C'est-à-dire que même les pays émergents, qui étaient vécus comme étant les moteurs de la croissance mondiale, sont en difficulté, ce qui ralentit la croissance mondiale.
Parallèlement, en France, le Front National a le vent en poupe. La crise économique et sociale, mais aussi l'impopularité du gouvernement, donne des ailes à Marine Le Pen. Un récent sondage a placé la chef de file du parti devant François Hollande en cas d'une éventuelle présidentielle derrière Sarkozy. S'il est vrai que sa formation a changé de visage ces dernières années, son logiciel reste le même, comme nous l'expliquait Jean-Yves Camus, politologue spécialiste de l'extrême droite.
Sommet, mais elle n'est pas encore arrivée, si je puis dire, jusqu'à la base. C'est vrai que le discours est différent. C'est vrai notamment que Marine Le Pen ne fait plus le même type de déclaration tapageuse sur l'occupation de la France par les nazis. Elle ne parle plus de l'inégalité des races. Elle n'est ni antisémite ni négationniste. Ça, c'est quelque chose d'acquis. Et le reste de la direction du Front National, pas davantage. Mais il y a encore du chemin pour que ce parti soit véritablement normalisé.
Et pendant ce temps, aux Pays-Bas, plus de 800 000 personnes à Amsterdam fêtaient le prince Willem-Alexander, devenu officiellement roi mardi, après l'abdication de sa mère, la reine Béatrix. À 46 ans seulement, il se présente comme un monarque du 21e siècle. Il veut concilier tradition et modernité. Son accès au trône est en tout cas une rupture, comme nous le disait si bien le journaliste et historien Philippe Delorme, auteur notamment de l'ouvrage « Les dynasties du monde ».
Ce qui est intéressant, c'est que ça va être le premier roi depuis 120 ans, puisqu'on a une dynastie de reines régnantes assez extraordinaire depuis Wilhelmine, Juliana et Béatrix. Donc là, on repasse, je dirais, du côté des mâles avec Willem-Alexander, qui ne sera pas Guillaume IV, hein, parce qu'à un moment, on pensait qu'il se ferait appeler Guillaume IV en souvenir de ses trois prédécesseurs, qui au XIXe siècle étaient trois rois Guillaume, mais il se fera appeler Willem-Alexander, donc Guillaume-Alexandre. Il garde son prénom. Les Pays-Bas ont su, depuis plusieurs générations, hein, depuis Wilhelmine, passer la main, je dirais. C'est-à-dire que les reines successives successives ne sont pas mortes sur le trône, mais vers 75 ans, comme cela, elles ont passé la main à leurs successeurs et ça a été, je pense, un élément de rajeunissement permanent pour cette institution.
Rupture aussi, et quelle rupture au Vatican avec le retour de Benoît XVI. Commence donc une cohabitation inédite, celle d'un pape en exercice et de son prédécesseur. Mais pour Patrice de Plainquette, journaliste et écrivain, auteur de plusieurs ouvrages sur Benoît XVI, ce qu'il faut retenir de cette cohabitation, c'est la réalité spirituelle de l'Église, en opposition à la vision politique de certains commentateurs.
Il est évident que la cohabitation, si on peut parler de cohabitation, entre un pape émérite et un pape en plein exercice, se déroule dans un climat spirituel qui n'existe évidemment pas dans les institutions politiques. Il ne pouvait pas y avoir de problème de cohabitation entre Benoît XVI et le pape François, et c'est ce que les commentateurs politiques vont commencer à constater maintenant.